Chapitre 93, Préparation pour la venue du Christ. Dans la dernière vision qui me fut donnée à Battle Creek pendant notre camp meeting, je vis le danger que nous courions de ressembler au monde plutôt qu'au Christ. Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de nous persuader que la fin des temps est encore très lointaine. Il emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui attendent l'apparition du Sauveur sur les nuées des cieux. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Je fus alarmé en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir en haute estime la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. L'ange de Dieu me montra ceux qui prétendent croire à la vérité, et d'une voix solennelle répéta ces paroles. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En considérant le peu de temps qui nous reste, nous devons veiller et prier, et en aucun cas nous ne pouvons nous permettre de nous laisser détourner de l'œuvre solennelle de préparation au grand événement qui est devant nous. Parce que la fin est apparemment reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui concerne leurs paroles et leurs actions. Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent et ne comprennent pas la miséricorde de notre Dieu qui prolonge le temps de grâce afin qu'ils puissent former des caractères pour la vie éternelle. Aujourd'hui, chaque instant qui passe a la plus haute importance. Ce temps leur est accordé, non pour qu'ils l'emploient à rechercher leurs aises et à s'établir sur la terre, mais pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d'autres, par leur exemple et leurs efforts, de voir les beautés de la sainteté. Dieu a sur la terre un peuple qui, animé par la foi et une sainte espérance, explique le déroulement des événements décrits par la prophétie et cherche à se purifier en obéissant à la vérité afin de ne pas être trouvé sans l'habit de noces lorsque le Christ apparaîtra. La date de la venue du Christ. Un assez grand nombre de soi-disant adventistes ont fixé maintes fois la date de la venue du Christ. Mais toutes ces dates se sont révélées fausses. Il nous est dit que le moment précis où le Seigneur doit revenir est caché aux mortels. Les anges eux-mêmes, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut, ne connaissent ni le jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, dit le Christ, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme la venue du Seigneur ne s'est pas produite dans les délais prédits, le monde s'endurcit dans son incrédulité. Les gens considèrent avec dédain ceux qui fixent des dates pour la venue du Christ. Ayant été trompés, ils se détournent de la vérité contenue dans la parole de Dieu établissant que la fin de toute chose est proche. Ceux qui prêchent avec tant de présomption que le Christ doit revenir à telle date, font le jeu de l'adversaire des âmes. Car ils favorisent l'incrédulité plutôt que le christianisme. Par une fausse interprétation des Écritures, ils produisent des arguments qui justifient apparemment leur position. Leur échec montre qu'ils sont de faux prophètes et qu'ils ont mal interprété la parole inspirée. Les saintes Écritures sont véridiques, mais les hommes en ont perverti le sens. Les fausses interprétations ont jeté le discrédit sur la vérité révélée pour les derniers jours de l'histoire du monde. Les adventistes ont été tournés en ridicule par les pasteurs de toutes les dénominations. Cependant, les serviteurs de Dieu ne doivent pas se décourager. Les signes prédits par la prophétie s'accomplissent tout autour de nous. Cela doit susciter chez tout vrai croyant un zèle ardent. Ceux qui croient qu'ils doivent fixer la date de la venue du Christ pour faire impression sur les gens ne bâtissent pas sur un fondement solide. On peut émouvoir les gens et éveiller leurs craintes, sans pour autant leur avoir fait admettre un principe. On crée chez eux une excitation. Mais lorsque le temps est écoulé, comme cela est arrivé maintes fois, ceux qui avaient été touchés retombent dans leur froideur, leurs ténèbres et leurs péchés, et il est presque impossible de réveiller leur conscience sans une excitation extraordinaire. Au jour de Noé, les habitants du vieux monde se moquaient de ce qu'ils appelaient la crainte superstitieuse et les prédictions du prédicateur de la justice. Ils le taxaient de visionnaire, de fanatique, d'alarmiste. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes rejettent le message d'avertissement solennel, comme au temps de Noé. Ils s'en réfèrent à ceux qui ont prédit la venue du Seigneur pour une date précise, et disent qu'ils n'ajoutent pas davantage foi à nos avertissements. C'est l'attitude du monde aujourd'hui. L'incrédulité se répand, et la prédication du retour du Christ est tournée en dérision. Il est donc de toute nécessité que ceux qui croient à la vérité présente montrent leur foi par leurs œuvres. Il faut qu'ils soient sanctifiés par la vérité qu'ils prétendent croire. Car ils sont une odeur de vie donnant la vie, ou une odeur de mort donnant la mort. Noé annonça aux gens de son époque que Dieu leur donnait 120 ans pour se repentir et trouver un refuge dans l'arche, mais ils refusèrent de l'écouter. Il leur était donné beaucoup de temps pour se détourner de leurs péchés, vaincre leurs mauvaises habitudes et acquérir de nobles caractères. Mais l'inclination au mal, bien que faible d'abord chez beaucoup d'entre eux, se fortifia par la suite et les conduisit, irrémédiablement à la ruine. L'avertissement miséricordieux du Seigneur fut rejeté avec des moqueries. Abandonnés à leurs ténèbres, ils suivirent le chemin que leur cœur mauvais avait choisi. Mais leur incrédulité n'empêcha pas l'événement prédit de se produire. Et grande fut la colère de Dieu qui se manifesta dans la catastrophe. Ces paroles du Christ doivent faire impression sur tous ceux qui croient à la vérité présente, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le danger que nous courons nous est présenté par le Christ lui-même. Il sait quel péril nous guette en ces derniers jours, et il voudrait nous préparer à les affronter. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on plantait et on bâtissait, on mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Le jour du Seigneur trouvera les hommes absorbés de la même manière par les affaires et les plaisirs du monde, en festin et en gloutonnerie, dans la satisfaction d'un appétit perverti, dans l'usage de liqueurs et de narcotiques comme le tabac. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Ces péchés se trouvent même chez ceux qui prétendent être le peuple de Dieu, mais qui suivent les coutumes du monde et participent à ces péchés. Avocats, ingénieurs, fermiers, commerçants, et même pasteur du haut de la chair s'écrie, paix et sûreté, alors que la destruction va fondre sur eux. Croyance et diligence. Le fait de croire à la venue du Fils de l'homme sur les nuées des cieux n'amènera pas le vrai chrétien à se désintéresser des affaires ordinaires de cette vie. Celui qui attend la prochaine apparition du Christ ne sera pas paresseux, mais diligent. Il n'accomplira pas son travail d'une manière malhonnête, mais avec fidélité et promptitude. Ceux qui pensent que leur désintéressement des choses de cette vie est une preuve de leur spiritualité et de leur séparation du monde sont la proie d'une grande illusion. Leur véracité, leur fidélité et leur intégrité sont mises à l'épreuve dans le détail de la vie quotidienne. S'ils sont fidèles dans les petites choses, ils le seront aussi dans les grandes. Il m'a été montré qu'ici et là plusieurs ne sont pas fidèles à cet égard. Leur caractère se manifeste dans la conduite de leurs affaires. Ils montrent leur infidélité, leur ruse, leur malhonnêteté, dans leur comportement avec leurs semblables. Ils ne considèrent pas que leur avenir, leur vie éternelle, dépend de la manière dont ils se conduisent dans les affaires de cette vie, et que la plus stricte intégrité est indispensable pour la formation d'un caractère sans défaut. La malhonnêteté est pratiquée chez nous à tous les échelons, et elle est la cause de la tiédeur d'un bon nombre de ceux qui prétendent croire à la vérité. Ils ne sont pas unis au Christ et se séduisent eux-mêmes. Je suis peiné de devoir dire qu'il y a une absence alarmante d'honnêteté parmi les observateurs du sabbat. On les reconnaîtra à leurs fruits. Mon attention fut attirée sur les principes du sermon sur la montagne. Nous avons là l'injonction du grand docteur, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce commandement du Christ est de la plus haute importance et doit être strictement suivi. Il est comme des pommes d'or dans un panier d'argent. Combien conforment leur vie aux principes énoncés par le Christ, et se comportent envers les autres comme ils aimeraient qu'on le fasse avec eux en pareilles circonstances? C'est au lecteur de répondre. Un homme honnête, selon le Christ, c'est celui qui manifeste une intégrité inflexible. User de faux poids et de fausses balances, pour faire de meilleures affaires dans ce monde, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Cependant, plusieurs de ceux qui prétendent garder les commandements se servent de faux poids et de fausses balances. Quand un homme est vraiment en communion avec Dieu, et observe la loi, sa vie le démontre. Car tous ses actes sont en harmonie avec les enseignements du Christ. Il ne vend pas son honneur pour un bénéfice quelconque. Ses principes reposent sur un fondement solide, et sa conduite dans les affaires de ce monde en est le reflet. Son intégrité brille comme l'or parmi les scories, et les immondices qui l'environnent. La supercherie, la fausseté et l'infidélité peuvent échapper à la vue des hommes, mais non à celle de Dieu. Les anges qui observent la formation de notre caractère et qui pèsent notre valeur morale, inscrivent dans les livres du ciel ces petites transactions, qui révèlent le peu de valeur de celui qui les accomplit. Si un homme manque de fidélité et de sérieux dans son travail journalier, le monde ne se trompera pas en pensant qu'un tel croyant fait peu de cas de sa religion. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ce n'est pas l'importance d'une affaire qui doit régler notre attitude. L'homme agit avec Dieu comme il agit avec ses semblables. On ne pourra jamais confier les véritables richesses à celui qui est infidèle dans les richesses injustes. Que les enfants de Dieu n'oublient jamais que dans toutes leurs transactions ils sont mis à l'épreuve, pesés dans la balance du sanctuaire. Le Christ a dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les actes d'un homme sont les fruits qu'il porte. S'il est infidèle et malhonnête dans les choses temporelles, il porte des ronces et des épines. » Il sera infidèle au point de vue religieux et il dérobera Dieu dans les dîmes et les offrandes. La Bible condamne dans les termes les plus violents toute hypocrisie, tout faux agissement et toute malhonnêteté. Ce qui est juste ou injuste est clairement établi. Mais il m'a été montré que le peuple de Dieu s'est placé sur le terrain de l'ennemi. Il a cédé à la tentation et a été séduit par les stratagèmes de l'adversaire au point que sa sensibilité a été sérieusement émoussée. Une légère déviation de la vérité, une petite entorse aux exigences de Dieu, est considérée, après tout, comme n'étant pas très mal, quand les avantages pécuniaires sont en jeu. Mais le péché est le péché, qu'il soit commis par celui qui possède des millions ou par celui qui mendie dans la rue. Ceux qui acquièrent des propriétés par des moyens malhonnêtes travaillent à leur propre condamnation. Tout ce qui est obtenu par la supercherie et la fraude se révélera être une malédiction pour celui qui s'en rend coupable. Adam et Ève subirent les terribles conséquences de leur désobéissance à un ordre de Dieu. Ils auraient pu raisonner ainsi, « Nous avons commis un très petit péché, et il ne pourra jamais nous en être tenu compte ». Mais Dieu a considéré cette transgression comme un mal terrible, et les conséquences en seront ressenties à travers tous les âges. Au temps où nous vivons, de très grands péchés sont souvent commis par ceux qui prétendent être enfants de Dieu. Dans les affaires, la fausseté est pratiquée par ceux qui professent être le peuple de Dieu, ce qui attire le courroux du Seigneur et jette le blâme sur sa cause. Le moindre écart de la vérité et de la rectitude est une transgression de la loi divine. Excuser continuellement le péché accoutume ceux qui s'en rendent coupables à faire le mal, mais n'en diminue pas la gravité. Dieu a établi des principes immuables, qu'il ne peut modifier sans changer toute sa nature. Si ceux qui prétendent croire à la vérité suivaient fidèlement la parole de Dieu, ils ne seraient pas spirituellement débiles. Ceux qui méprisent les exigences de Dieu dans cette vie ne respecteraient pas son autorité s'ils étaient au ciel. La Bible, un guide infaillible. Chaque sorte d'immoralité est clairement définie dans la parole de Dieu, et ses résultats sont placés devant nous. L'indulgence des passions les plus basses nous est présentée dans son caractère le plus révoltant. Quelque obscurcie que soit son intelligence, nul ne peut errer à ce sujet. Mais il m'a été montré que ce péché est caressé par beaucoup de ceux qui prétendent observer tous les commandements de Dieu. Le Seigneur jugera chacun d'après sa parole. Le Christ a dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible est un guide infaillible. Elle exige de notre part une pureté parfaite, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce ne sont que les hommes vertueux et sans tache qui pourront se tenir en présence d'un Dieu pur et saint. La parole de Dieu, étudiée et suivie, conduira les enfants des hommes, comme les Israélites le furent au désert par la colonne de feu pendant la nuit, et par la nuée pendant le jour. La Bible est la volonté de Dieu exposée à l'homme. Là seulement est décrit le caractère idéal, là est indiqué le devoir de l'homme en toutes circonstances. De nombreuses responsabilités reposent sur nous ici-bas, les négliger nous causerait non seulement des souffrances à nous-mêmes, mais d'autres en subiraient également les tristes conséquences. Des hommes et des femmes qui prétendent révérer la Bible et suivre ses enseignements ne se conforment pas à ses exigences à bien des égards. Dans l'éducation des enfants, ils suivent leur nature perverse plutôt que la volonté de Dieu, pourtant connue. Cette négligence du devoir entraîne la perte de milliers d'âmes. La Bible expose les règles d'une discipline correcte à appliquer aux enfants. Si ces instructions étaient suivies par les parents, les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui à l'âge des responsabilités seraient bien différents. Mais certains parents qui prétendent être des lecteurs de la Bible et se conformer à ses instructions font exactement le contraire de ce qu'elle enseigne. Nous entendons les cris des pères et des mères angoissés qui déplorent la conduite de leurs enfants, se rendant peu compte qu'ils ont attiré la tristesse et l'angoisse sur eux-mêmes, et fait leur malheur en leur témoignant une affection déplacée. Ils oublient que le Seigneur les a chargés de leur inculquer de bonnes habitudes dès le berceau. Parents, vous êtes en grande partie responsables de l'âme de vos enfants. Beaucoup ont négligé leurs devoirs pendant les premières années de leurs enfants, dans l'idée que, lorsque ceux-ci seraient grands, ce serait assez tôt pour corriger leurs erreurs et leur apprendre ce qui est bien. Mais ils auraient dû faire ce travail alors que l'enfant était au berceau. Les parents ne doivent pas choyer leurs enfants et céder à leurs caprices. Ils n'ont pas davantage le droit de les laisser sur le chemin de l'erreur. On obtiendra de meilleurs résultats en étant ferme et en agissant d'après un plan bien arrêté.